À cœur de partager avec vous un texte qui est sûrement connu, mais même si c'est connu, c'est bien de le reprendre ensemble. C'est dans 2 Rois, le chapitre 4, quelques versets de 1 à 7. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes: « Ton serviteur, mon mari, est mort. » Tu sais combien il révérait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui demanda: que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit: je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Il dit alors: va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras, puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront remplis. La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. Jusqu'à ce qu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils: « Passe-moi encore un récipient !» Mais il lui répondit: « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit: « Va, vends cette huile. Tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui te restera. » Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole que nous voulons méditer ensemble ce matin. Tu nous vois chacun là où on en est, et nous voulons, avec ce que nous sommes, nous approcher de ta parole. Qu'elle puisse nous parler, nous interpeller et nous emmener plus loin avec toi, Seigneur. Amen. Je crois que c'est un texte qui effectivement est connu, hein. C'est pas un scoop, hein. Jean-Louis, tu connaissais pas trop? Non? Moi, je trouve que c'est une histoire, on pourrait très bien la trouver aussi dans les évangiles. Si on remplaçait Élisée par Jésus, j'ai l'impression que c'est une histoire qui pourrait être vécue du temps de Jésus. Un récit assez simple, pas trop dur à comprendre, peut-être même un peu trop beau pour être vrai, vous pourrez me dire. Alors, je ne sais pas ceux qui préparent des messages, comment est-ce qu'ils le vivent, mais en général, quand on le prépare plusieurs jours à l'avance et qu'on vit au quotidien, on essaie de voir quel est le lien entre son vécu et le texte qu'on explore un petit peu. Et on se dit, est-ce que mon vécu va dans le même sens que ce que j'ai envie de raconter dans mon texte? Et on réalise que ce n'est pas toujours le cas. On va s'intéresser un peu plus à cette histoire. Cette histoire s'inscrit dans une période de grâce particulière. Pourquoi de grâce? Parce qu'il y a des signes miraculeux qui s'accomplissent, parce qu'on sait que tout juste avant Élisée, il y avait Élie, et Élie a fait aussi pas mal de choses, et Élisée aussi, il y a vraiment eu des miracles, hein, parce que là, quand on voit cette histoire, on se dit que c'est tout de même un vrai miracle qui est arrivé. Il est question d'une veuve. Ah, pas toujours facile, hein, d'être veuve. Je pense que de nos jours, c'est pas facile, même avec les pensions de reversion qu'il peut y avoir ou les textes qui protègent la veuve. Mais à l'époque, c'était encore bien plus difficile que d'être veuve, d'être sans mari, d'être automatiquement sans ressources. J'avais à cœur de vous citer quelques textes de l'Ancien Testament, et j'espère que ça va pas être trop rébarbatif, où il nous est dit et où on est invité à considérer les veuves d'une certaine manière. Dans ta prière, Jean-Louis, tout à l'heure, tu as aussi parlé de veuves, hein? Ouais. J'aimerais lire quelques versets de l'Ancien Testament. Exode 10. Tu n'exploiteras ni l'opprimé, ni l'émigré, car vous avez été émigrés au pays d'Égypte. Là, il faut repenser à ce qu'on était soi-même pour tenir compte, dans un autre contexte, de ce qu'on a été. Vous ne maltraiterez aucune veuve, aucun orphelin. Si tu le maltraites et si tu cries vers et s'il crie vers moi, j'entendrai son cri, ma colère s'enflammera, je vous tuerai par l'épée, vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Ça va, hein? C'est tranché, hein? On rigole pas, hein? Exode 20, un peu plus loin. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils reviennent à moi, j'entendrai leur cri. Deutéronome 24. Tu ne porteras point atteinte au droit, puisqu'il a des droits, hein, au droit de l'étranger et de l'orphelin. Et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras, il faut toujours se souvenir, hein, pas oublier, hein, se souvenir qu'on était esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements et tu les mettras en pratique. Écoutez bien, quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans ton champ, tu ne retournes point. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans ton travail. Quand tu secoueras tes oliviers, ça nous arrive pas trop, hein, tu ne cueilleras point les fruits restés aux branches. Elles seront pour qui ? L'étranger, l'orphelin, la veuve. Ils sont toujours mis un peu ensemble, hein, ces trois catégories. Quand tu vendangeras ta vigne, là aussi, les quelques grappes qui resteront, elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin, la veuve. Il y a beaucoup de textes, peut-être un dernier encore de l'Ancien Testament. Ainsi parle l'Éternel des armées dans Zacharie 7, rendez véritablement justice, rendez justice, hein, justice avec les veuves, hein, c'est pas évident, hein. Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde, n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Est-ce que dans le Nouveau Testament, il est question des veuves ? Je pensais que vous allez tous crier oui. Oui, il y a pas mal de passages qui en parlent. Il en est question dans Timothée, par exemple, où il y a tout un paragraphe, il y a 13 versets, je vais vous les lire, hein, 13 versets qui sont consacrés au statut des veuves. En résumé, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Acte 6, c'était quoi le problème ? Les veuves n'étaient plus servies correctement. Et le début des diacres relève de ce passage parce qu'il y avait eu un problème avec les veuves. Jésus avait un contact particulier avec une veuve, laquelle ? Vous savez qu'à un moment donné, Jésus s'est mis à l'offrande. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est l'offrande chez moi, Léo. Vous en avez une ?
Il y en aura une.
Il y en a une ? Et il s'est mis à côté et il a regardé. Oh Jésus, qu'est-ce que tu fais ? Et il a vu qu'il y a une veuve qui a mis quelque chose dedans. Hein. Jésus, c'est incroyable, hein, il regarde même les sous. Hein. Et il a dit que celle-là, elle a mis beaucoup plus que tous les autres. Je ne sais pas s'ils ont compris ce qu'il voulait dire. En tout cas, de manière délibérée, Jésus a une attitude très marquée vis-à-vis de ce public-là. Et il l'honore. Et je crois que quand on cite ces versets, on ne peut pas oublier que nous-mêmes avons été, peut-être pas veufs, mais émigrés. Et vis-à-vis des migrants qui nous entourent de nos jours, je crois qu'on a une attitude aussi peut-être particulière à avoir, parce qu'on voit que les émigrés, les veuves et les orphelins sont sous la même couverture. Alors on revient à notre texte. Et cette pauvre veuve, elle est en face d'une difficulté énorme. Son mari n'est plus, ça c'est une chose, mais voilà qu'il y a des problèmes de sous, des problèmes d'argent. Et elle est même au point, cette femme, de perdre. Finalement, la seule chose qui lui reste encore, c'est les deux fils. Vous vous rendez compte ? Perdre son mari, ne pas avoir de sous, plus perdre ses fils, mais c'est dramatique, c'est cruel. En tout cas, c'est une montagne devant elle. Peut-être juste un petit point pour s'arrêter là et pour dire, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais au début, il était dit que la veuve était veuve d'un disciple des prophètes. Et c'est pour vous dire que même les chrétiens, ou même ceux qui sont dans le ministère, ne sont pas épargnés par les difficultés. On aurait pu dire, mais parce que c'était un serviteur de l'Éternel, Dieu allait avoir de la miséricorde particulière et que cette femme n'aurait pas de problème. Même ceux qui sont dans le ministère peuvent avoir des difficultés, a fortiori, nous tous pouvons vivre des situations difficiles, difficiles moralement, mais difficiles aussi matériellement. Et j'ai essayé de penser à mon entourage, qui sont ces veuves ou ces personnes seules. Je ne sais pas à qui tu penserais, Roland, mais le premier réflexe qui m'est venu, c'est une personne qui est veuve depuis un an, l'âge de 43 ans, quelque chose comme ça, son mari est décédé, tout juste à côté de l'église, chez nous à Kirch, le plus proche. Il n'y a pas plus proche qu'elle, puisqu'elle touche le bâtiment. Elle a 5 filles dont elle doit s'occuper, avec la plus petite qui a 4 ans à peu près. Certes, son mari était alcoolique, mais il est parti il y a un an brutalement. Ils ne sont pas membres de l'église, mais ils ont souhaité que la cérémonie ait lieu chez nous. C'est nous qui avions officié. Et je me suis dit, je ne peux pas ne pas penser à elle quand je parle de veuve. J'ai une autre situation aussi qui m'est venue cette semaine d'un jeune qui loge assez proche de chez nous. Il a été élevé par sa grand-mère. Donc c'est souvent comme ça, hein, quand la grand-mère doit élever et que la maman n'est plus là, on sent que c'est dramatique. Il est dyslexique, il vient perdre son emploi où il faisait du porte-à-porte pour une association collecter de l'argent. En fait, il n'a plus rien, le pauvre. Et je me dis, bon, lui, il n'est pas veuf, mais il est pauvre. Et je me dis que c'est important qu'on soit sensible à ces situations. Alors, on sait qu'elles existent, mais ces deux situations, en tout cas pour moi, elles me côtoient de près. Et je sais que Dieu attend des choses de moi en rapport avec ces gens. Que je dois vivre quelque chose de particulier avec elles et je vais être sensible à voir là où Dieu peut me conduire dans la relation avec ces personnes. Peut-être vous aussi, vous avez des exemples de ce type-là. Alors, en allant un peu plus loin dans le texte, on pourrait dire, ouais, mais le problème de ce texte, c'est l'histoire de l'emprunt. Si cet homme n'avait pas emprunté, peut-être il n'en serait pas là, hein, parce que c'est parce qu'il a emprunté. Alors, on ne sait pas s'il est décédé de manière prématurée, mais on peut s'imaginer que cet emprunt, il ne l'a pas fait dans l'optique que les enfants allaient le rembourser. Donc on pourrait se dire que finalement il est parti un peu trop vite, et on pourrait se dire, mais ce texte nous dit qu'il ne faut pas emprunter. Ben non, Élisée ne dit rien par rapport à l'emprunt. Et il faut que vous sachiez que depuis, j'essaye de creuser un peu, mais depuis que l'argent existe, ben l'emprunt existe aussi. Donc, j'allais dire, allez-y, vous pouvez emprunter. Non, 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 j'ai d'autres questions. Hein. Je dirais juste que ce texte ne condamne pas l'emprunt. D'accord ? Si vous voulez, au repas, on peut parler. Mais je trouve que c'est intéressant de faire attention à ne pas dire au texte qu'il ne dit pas. Et il ne remet pas du tout en cause, ben, l'emprunt, il est là. Même dans le Lévitique, il était question que quand on prête aux pauvres, il ne faut pas prêter avec intérêt. Je trouvais ça intéressant, hein. Aux autres, ceux-là, peut-être, on peut mettre de l'intérêt. Hein, mais les pauvres, il faut les protéger. En tout cas, on voit que notre cadre est posé. Et cette veuve, cette jeune veuve, parce que je pense que ça ne date pas d'il y a longtemps, elle allait voir un jeune prophète. En tant que jeune, ils s'entendent. Hein. Ben pourquoi jeune prophète ? Parce que deux chapitres plus tôt, Élie est parti. Qu'est-ce qu'Élisée voulait avant qu'Élie parte ? Vous vous souvenez de ça ? Le manteau. Le manteau, et quoi encore ? C'était quoi l'histoire derrière ?
Double portion.
Question.
Double portion, à bénédiction.
C'est pas mal, hein ?
Il était gourmand.
Gourmand, hein ? Mais une bonne gourmandise, hein, Christian ? Un peu comme Salomon aussi. Je me dis, Élisée et Salomon sont deux personnes qui, toutes les deux, ont demandé au Seigneur, ou ont demandé à ceux qui précédaient, une double sagesse pour diriger. Je crois que j'ai aussi le demandé pour le bureau, moi. Ça peut servir. Hein. Pour les responsables aussi.
J'en ai besoin.
J'en ai besoin. Tout à fait. Ça, c'est une parole de sagesse. Non, non. Et je trouve ça beau. Hein. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette relation ? Qu'est-ce qu'il dit, Élisée ? Quelque chose que Jésus aurait aussi pu dire. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'il dit ? Ceux qui ont le texte, là.
Que puis-je faire pour toi ?
Que puis-je faire pour toi ? Je trouve que c'est pas mal cette question. Hein. Que puis-je faire pour toi ? Vous ne trouvez pas que Jésus aussi aurait pu dire la même chose ? Hein ? C'est le même type de... Qu'est-ce que ça dénote ? Une attitude de respect ? Une attitude qui responsabilise la personne ? Une attitude qui oblige peut-être la personne aussi à se clarifier ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Ça renvoie la balle un petit peu, hein ? L'idée, c'est de dire, mais quelle est ta vraie demande, finalement ? Et je me dis aussi, hein, vis-à-vis des deux personnes que j'ai citées tout à l'heure, on a l'impression que c'est tellement criant au niveau des besoins, mais peut-être ça vaut le coup de dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Responsabiliser les autres et en même temps me mettre dans une attitude d'écoute, être attentif, ne pas avoir de préjugés, ne pas croire que je sais ce qu'il te faut. Après, qu'est-ce qu'il dit ? Tout de suite dans la foulée, c'est dit.
Bah, il lui demande ce qu'il a.
Dis-moi ce que tu as. C'est des pensées philosophiques, ça. Hein, c'est du terre à terre, c'est tout simple. Dis-moi ce que tu as. On pourrait croire que c'est une évidence et on pourrait dire mais il le voit. Enfin, une invitation à faire un état des lieux. Faire un constat aussi précis que possible et aussi réaliste que possible. Qu'est-ce que tu as ? Pas s'illusionner de ce qu'on aimerait avoir, d'un rêve qu'on pourrait avoir. Pas dénigrer non plus, pas avoir peur de regarder la réalité en face. Qu'est-ce que tu as réellement ? Mettre des mots sur ce que je perçois. Demander un peu quelle est la vision. T'en es où ? Qu'est-ce qui t'habite ? Qu'est-ce que tu veux réellement ? Je trouve ça très intéressant comme moyen d'approche. Et avec ça, on ne sait pas où ça mène. Hein ? Soyons honnêtes. Hein ? Parce que quand on dit ça, on se met à la portée de l'autre. Et c'est l'autre qui aura les rênes en main. Et c'est l'autre qui va dire... Nous, on aime bien des fois nos schémas, hein. On préfère un peu sécuriser, quoi. Hein. J'ai fait ma formation, je sais que dans tel cas, on utilise telle variante. C'est pour ça la formation aussi, hein. Ça nous donne des repères. Mais on voit tout de même qu'Élisée a une pratique là, où il est très ouvert et il tend la perche, et il est prêt à suivre la personne là où la personne veut l'emmener.
Il se met au niveau de la personne.
Il se met au niveau de la personne. Et ça aussi, je me dis, c'est énorme pour nous, hein, d'arriver à nous mettre en situation et voir comment on peut être conduit. Donc la femme, elle dit, elle est honnête, j'ai un flacon d'huile. C'est bien, hein, fait le constat. Qu'est-ce qu'il dit après, Élisée ? Un mot avec deux lettres.
Va.
Plus fort.
Va.
Non, attends, il n'y a qu'un mot là.
Oui, c'est va. Va chez les voisins.
Mmh. Ouais. C'est...
Va demander.
C'est... Tu ne trouvais pas que c'est puissant ?
Ah oui, parce que...
Hein ? Quand quelqu'un ne va pas bien, allez, c'est triste la vie, c'est... Hein ? On veut consoler, on veut... Va ! Va ! Va !
Mais déjà, c'est pas facile d'aller chez les voisins demander quand même les choses, hein, parce qu'elle obéit, c'est bien, mais...
Vous savez combien de fois dans la Bible on retrouve ce mot ? J'ai creusé un petit peu, enfin j'ai cherché un peu. Va avec la force que tu as. Va, lave-toi au puits de Siloé. Va, ne pêche plus. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite reviens. Va, vends tout ce que tu as et reviens après. Va, car je t'enverrai vers les nations nombreuses. Acte 22. Beaucoup de textes comme ça, on pourrait lire avec le mot « va ». Petit mot, on pourrait dire. Mais combien puissant, quelle pédagogie notre ami Élisée utilise. Pas d'assistana, mais une invitation à se prendre en charge, à bouger, à faire sa part. C'est un bon moyen pour voir la motivation des gens et savoir si la personne veut réellement s'en sortir ou veut rester dans son statut. Quelquefois, il est dur de quitter le statut d'aidé. Parce que quand on est aidé, on n'a besoin de rien faire. Quand on veut s'en sortir, après il faut travailler. Mets-toi en route, mets-toi en marche. Et si je paraphraserais un petit peu les tièdes dans Apocalypse 3, je dirais que les tièdes, ce sont ceux qui sont sur le banc de touche, assis, et qui disent aux autres ce qu'ils doivent faire sans le faire eux-mêmes. Hein? Ça pourrait être un peu ça. Hein? Va est une invitation à se mettre en route, à regarder les motivations profondes et à savoir si vraiment on veut s'en sortir. Et comme tu disais, aller n'était pas si simple que ça dans cette histoire. Tu veux peut-être le redire, pourquoi ?
C'est-à-dire que ce n'est pas facile d'aller demander déjà quelque chose à quelqu'un, déjà chez les voisins. Chercher déjà des vases, c'est pas... C'est quelque chose quand même...
C'est quand même ?
Oui.
Tu ne trouvais pas que c'est se mouiller ?
Ouais.
Les gens vont lui dire, mais quelle mouche t'as piqué là ? Mais ouais. Des jarres ? Mais qu'est-ce que tu viens faire avec des jarres maintenant ?
Je ne dirais pas.
Est-ce que tu vas me la ramener cette jarre ou pas? Si je te la donne. Et moi je me suis dit, on peut pas ne pas penser à Noé.
Ouais.
Noé, c'était aussi cet homme-là qui a commencé à construire son arche. Il dit, hey, t'es fou toi, elle est où la pluie là? Il n'y a pas de pluie là. Vous vous rendez compte? Ce que ça exige comme volonté et comme... Il faut oser y aller. Je ne sais pas comment vous auriez réagi, mais moi, avec Élisée, j'aurais commencé un peu à discutailler. Combien de jars est-ce que je dois aller chercher ? Tu peux me dire ce que tu veux en faire ? On aurait eu envie de savoir plus, quoi. Et on voit que là, elle accomplit. En plus, Élisée lui dit, prends-en autant que tu... Et tu te rendais compte? C'est pas juste aller voir un ou deux voisins, c'est... Et je trouve que c'est intéressant que dans des situations de détresse, on soit obligé d'être mis en mouvement, de bouger, et pas bouger juste un petit peu, quoi. Mais bouger sérieusement, quoi. Ça m'a fait penser aussi un peu, en parlant de Jésus, à la multiplication des pains. Il y a toujours un peu cet état des lieux qui est fait. Combien de pains ? Combien de poissons ? 5 ? Combien de personnes ? Hein ? C'est la même chose, un état des lieux qui est fait, et après on a l'impression que ça coule, quoi. Ça se multiplie. Je trouve ça incroyable, quoi. C'est la même pédagogie et c'est le même mode de fonctionnement. Un autre aspect qui me frappe un peu dans cette histoire, il lui est dit, tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi. On a l'impression qu'il y a des choses qu'il faut faire en public et il y a des choses qu'il faut faire dans le secret. Je trouve ça intéressant. Pourquoi est-ce qu'elle devait faire ça dans le secret ? Pourquoi ça ne devait pas être à la vue de tout le monde ? Je pense que là, vraiment, il y a une notion d'intimité que Élisée propose à cette femme. Et cette intimité, c'est entre les fils, elle et Dieu. C'est là que ça s'est joué. Et je crois qu'il ne faut pas minimiser aussi dans nos vies cette importance de cette intimité. Je sais que quand on prépare un message, c'est aussi du temps d'intimité qu'on a. D'un côté, on travaille un texte, mais d'un autre côté, ça nous travaille nous, quoi. Où est-ce que j'en suis ? Avec le peu que j'ai, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je le mets au service ou pas ? Est-ce que je doute de ce que Dieu m'a dit ou est-ce que je le crois ? Et là, dans cette intimité, on voit qu'il y a des choses qui se passent. On voit que Dieu parle et on voit jusqu'où elle va et comment est-ce qu'elle réalise ce qui lui est demandé. Et c'est incroyable qu'il ait dit qu'à la fin... On a l'impression qu'elle en avait encore, elle voulait encore remplir, mais elle ne pouvait plus, quoi. Et ben là, ça s'est arrêté, quoi. Comme pour dire, ben, si tu en avais eu 10 de plus, peut-être les 10 auraient été remplis aussi, quoi. En tout cas, ce que je trouve de beau c'est que d'un côté, elle vit des choses intimes entre Dieu, ses fils et elle, et ensuite, rapidement, elle va voir Élisée. Et elle va lui dire ce qui s'est passé. Elle va le raconter. Je pense que c'était une femme, pour moi, c'était une femme de foi, qui, au travers du vécu de son mari, a déjà connu la présence de Dieu. Elle a vu des choses. Et elle savait que si elle allait voir Élisée, c'est la bonne personne qu'elle allait voir. Et que ce gars-là, celui-là, on peut lui faire confiance. Parce que celui-là, s'il dit quelque chose, ça va être en accord avec Dieu et ça va se réaliser. Alors, ce n'est pas écrit de manière aussi claire, mais c'est ce que, pour moi, le texte sous-tend. Et je me dis, nous aussi, on a déjà vécu des choses avec le Seigneur. De quelle manière ça se renouvelle, ce qu'on a vécu? Ou de quelle manière, on est souvent amnésique, hein. Moi je le sens avec l'âge, hein, de plus en plus, hein. On oublie certaines choses, on oublie des expériences qu'on a vécues avec lui, on oublie que cette huile a coulé. Vous savez de quoi est symbole l'huile?
La grâce,
la présence du Saint-Esprit. Cette présence du Saint-Esprit est là pour nous habiter, pour nous conduire, pour nous diriger. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes ce matin, mais je crois que comme cette femme, Dieu vient aussi vous dire, mais où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce que tu as? J'aime cette petite phrase aussi que l'ange ou Dieu avait posé à Ève, où es-tu? Où es-tu, hein? C'est très court aussi, hein? Trois mots, où es-tu? Ça ne veut pas dire uniquement géographiquement où est-ce qu'ils étaient, parce qu'ils étaient nus à ce moment-là, ils voulaient se cacher. Mais où es-tu dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes réflexions? Dieu désire que nous soyons pas ses serviteurs, mais ses amis, ses fils, les héritiers. Dieu désire qu'on soit les collaborateurs. J'aime beaucoup ce mot de collaborateur. C'est une notion de travailler avec, d'être ensemble. Dieu veut nous faire part des plans qu'il a pour l'humanité. Dieu veut nous donner de réaliser, je pense à moi vis-à-vis de cette veuve et de ce jeune, qu'est-ce qu'il aimerait faire pour eux? De quelle manière sa grâce peut couler pour eux? Alors, ça va être adapté à leur situation et c'est eux qui vont le découvrir. Mais je crois que je suis appelé, moi, à en être le canal et à oser aller dans cette direction-là. Et je crois que pour chacun d'entre nous, par rapport aux gens que Dieu nous confie, par rapport à la mission au sein de l'Église, il y a cette dimension d'être proche de Dieu dans cette intimité et de voir ce qu'il veut nous communiquer. Alors, pour terminer, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant juste de voir à quel personnage on veut s'identifier dans ce texte-là. On a Élisée, on a la veuve, on a les fils. Trois caractères, trois positions différentes. Où est-ce que vous avez l'impression de vous situer? Les fils, il est très peu dit d'eux. On ne sait pas grand-chose. On sait qu'ils ont vécu le décès du père. On sait qu'ils sont devenus une valeur marchande au bon vouloir du créancier. On sait qu'ils n'ont pas de possibilité d'initiative, coincés, sans marge de manœuvre, à 100% victimes de quelque chose, d'une mort prématurée. On sait qu'ils sont à la merci des autres. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans ce cas-là? La veuve, une autre position, elle, devant l'urgence de la situation, il faut absolument trouver une solution. Le temps tourne, le temps vaut cher, la crainte de tout perdre, même ses fils, est bien présente. Maintenant qu'elle a perdu son mari, est-ce qu'elle veut encore perdre ses enfants? Elle connaît Dieu, elle connaît Élie très certainement. Elle connaît Élisée. Elle sait où trouver la solution. Elle se décide de manière délibérée à aller le rejoindre. Et elle fait pleinement confiance à cet homme. Est-ce que vous êtes dans cette attitude de chercher et de vouloir trouver quelque chose de manière aussi décidée? Et pourquoi pas vous identifier à Élisée? Je crois aussi qu'à certains moments, nous sommes appelés à être des Élysées. Ne pas rester insensibles à la détresse qui nous entoure. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, et on pourrait crouler sous le poids de la détresse. Mais quelquefois, il y a des détresses qui nous touchent de plus près, où on est amené à réfléchir et à nous poser des questions. Élisée était peut-être très jeune, mais malgré tout, il a été à l'école de Élie, le prophète qui était avant lui. Élisée avait réellement le désir de servir Dieu et d'accomplir son ministère aussi fidèlement que possible. Il a du succès, Élisée, dans ses activités, mais parce qu'il est dépendant de Dieu. Il ose marcher sur les eaux en traçant une voie nouvelle. On peut se dire, mais c'est que lui qui peut vivre ça, pas moi. Mais je crois que dans la relation avec Dieu, on peut aussi, à certains moments donnés, oser dire aux gens, mais fais un pas et va plus loin. Dieu va pourvoir. Dans les situations difficiles des humains autour de nous, le Seigneur veut être présent et nous inviter à aller plus loin. Et surtout croire que le peu qu'il nous a donné, celui-là, on peut le faire fructifier. Je prie encore ? Oui ? Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante. Merci pour cette histoire que très certainement on connaît ou on connaissait déjà. Mais merci parce que ton désir, c'est de nous parler. Tu as le désir de trouver des cœurs sensibles à ta voix, sensibles à se mettre en route quand on entend ta parole et à voir là où on peut aller. Tu sais si on est à l'image des deux fils, de la veuve ou d'Élisée, mais en tout cas, tu veux nous rejoindre. Puisses-tu ce matin nous rejoindre dans notre situation, dans ce qu'on a vécu cette semaine ? Puisses-tu nous donner de l'espérance ? Puisses-tu nous donner de comprendre que ce que tu nous donnes, tu nous invites à le mettre en œuvre ? Peut-être tu nous invites à aller, que cette notion de « va » est pour nous. Seigneur, donne-nous de ne pas douter de toi. Tu nous invites à être tes collaborateurs et à nous mettre en marche. Merci pour tous les talents que tu nous donnes à chacun, pour nos communautés pour lesquelles on peut prier, pour qu'elles soient attentives à ta voix et qu'on soit sensible aux besoins que tu nous mets à cœur. Merci pour l'harmonie de ce texte qui nous invite à croire qu'avec toi, il y a toujours une solution. Il n'y a aucune situation qui est désespérée. Merci pour ce temps ensemble, Seigneur. Amen. Amen.